Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. C'est dimanche soir et c'est l'heure du tigre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, so let's go Marco.
Il faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Ouais, l'œil du tigre.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Ancien combattant, militant socialiste et bistrot.
Là, il a marqué un point.
C'est de dire si dans ma vie, j'ai entendu des conneries. Il est comme ça, jamais.
À l'affiche ce soir, c'est l'histoire d'une légende du sport. Mais ce n'est pas l'histoire d'un champion. Non, c'est plutôt le destin d'un concepteur. Oui, ce soir, c'est l'histoire d'une icône japonaise devenue planétaire. Connaissez-vous la vie de Monsieur Honda? Entre une Formule 1 et une moto, voici la 21e étape de notre grand safari au pays de la culture de masse.
Il nous prend pour des bourriques.
Oui, ça part.
Ça, c'est un excellent...
Burger Winter is coming.
Nous sommes en pleine saison de Formule E. E comme électrique, sans doute l'avenir du sport automobile. Et ce week-end, le Grand Prix se tient à Santiago, au Chili. Soyons certains que si Soichiro Honda était encore de ce monde, le constructeur japonais serait très investi dans les écuries de Formule E, car ce monsieur Honda était avant tout un pionnier. Et alors ce soir, pour nous raconter le destin de ce précurseur des sports mécaniques, ils seront deux invités au micro d'Inter. Tout d'abord, Yves de Risbourg, journaliste, il a très bien connu l'énigmatique Soichiro Honda et il vient de lui consacrer une biographie très fouillée. Et puis à ses côtés, une légende du sport automobile, il a piloté sa Formule 1 avec un moteur Honda, Alain Prost, oui, Alain Prost sera tout à l'heure avec nous pour évoquer ses souvenirs de ce mythe japonais. Mais juste avant le vénérable monsieur Honda, nous accueillerons l'inimitable monsieur Besnéard. Dominique, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, qui est à l'affiche ce soir?
Mark Keller, la dernière égérie de Billy Wilder dans Fedora.
Très bien. Et enfin, juste avant 19h, bien sûr, le Give Me Five, signé Joy Raffin. Salut Joy.
Bonsoir Colin, bonsoir à tous.
Alors, au programme ce soir.
Un sculpteur qui aime la danse, des footballeurs qui aiment la politique et une auteure qui aime le saut en hauteur. Si c'est pas sport et culture, ça?
Eh ben si, et c'est le deal. À tout à l'heure, surtout n'ayez pas peur et soyez les bienvenus dans l'œil du tigre.
L'œil du tigre, Philippe Collin sur France Inter.
Alors, ce soir, on commence avec la Coupe du Monde de cyclo-cross. C'est la saison, un sport d'hiver dans le froid et la boue. Un sport devenu un peu confidentiel, c'est vrai, et pourtant fut un temps, notamment juste après la Seconde Guerre mondiale, où le cyclo-cross était un sport très populaire. Voici le flashback, année 1945.
75 coureurs, vannes de départ sur l'avenue de Versailles à Choisy-le-Roi pour disputer le cyclo-cross de la Vigne sur un circuit de 6 km à couvrir 3 fois. Robert Houbron, qui fait sa rentrée, est favori. Mais voici la première difficulté, le chemin glissant de Grignon. Une chute se produit, provoquée par Collet. Chacun se relève tant bien que mal, mais Collet abandonne. Houbron gravit la butte de Grignon, vélo sur l'épaule, plus à l'aise que le spectateur enthousiaste qui l'escorte. Renoncer et le bœuf tentent vainement de rejoindre le fuyard. Celui-ci pédale en souplesse dans un style parfait. Et voici l'arrivée que Robert Houbron franchit avec 57 secondes d'avance sur Renoncer et le bœuf. Cinéaste et radio accaparent le vainqueur, tout joyeux de sa victoire.
Rue Le Pic, 150 concurrents du cyclocross populaire de l'humanité s'élancent à l'assaut de la butte Montmartre. Comme des fourmis pédalantes, ils se répandent sur les flancs de la célèbre colline du 18e arrondissement. Voici les 224 marches de l'escalier du funiculaire. Le peloton s'étire car l'effort à fournir est réellement dur. Puis, rapidement, il faut enfourcher le vélo, virer à la corde et s'apprêter à foncer dans la pittoresque rue des Saules. On file à 40 à l'heure, vers la place Constantin-Pécœur. On remonte encore, cette fois vers le moulin de la Galette, mais les as partis plus tard apparaissent. Et c'est l'arrivée, le Parisien Piel bat au sprint le petit Breton Robic.
Jean Robic, le petit Breton qui sera vainqueur du premier Tour de France d'après-guerre en 1947. Et après le petit Breton, voici le glorieux Normand. C'est l'heure du Dominique Besnéard.
C'est fou la vie.
Ce soir, Dominique, c'est un cas unique.
Oui, Marthe Keller est probablement la seule actrice à la carrière internationale avoir été découverte par la télévision française.
Eh oui.
C'est en effet La Demoiselle d'Avignon, le feuilleton diffusé à la télévision en 1972, qui l'a révélée aux yeux de tous. Cette année-là, le cœur de la France bat à l'unisson pour la jolie demoiselle. Avec son physique idéal de jeune fille naturelle et sexy, Marthe Keller nous est apparue comme l'incarnation d'une certaine idée de la Suisse. Et lorsque les aventures de son personnage prennent fin, c'est comme un deuil national qui s'abat sur le pays.
Et son talent, Dominique, naît au théâtre.
Jeune fille, Marthe étudie l'art dramatique à l'école Stanislavski de Munich, puis foule les planches du Schiller Theater de Berlin. C'est dans cette même ville qu'elle fait ses débuts modestes au cinéma à l'occasion du tournage de Mes funérailles à Berlin aux côtés de Michael Caine. Elle est à Paris lorsqu'éclate mai 68. La révolution étudiante la retient dans la capitale française plus longtemps que prévu et bouscule son destin. Marthe rencontre Philippe de Broca qui tombe aussitôt sous son charme. Elle devient l'interprète pleine de grâce et de vitalité du diable par la queue et des caprices de Marie, ainsi que sa compagne dans la vie. Ils ont un fils ensemble, Alexandre, né en 1971. Marthe poursuit sa carrière française, mais le rôle principal de toute une vie de Claude Lelouch s'avère insuffisant pour combler son envie irrésistible de tourner.
Et Marthe Keller répond alors aux propositions américaines.
Sirène bien attrayante, puisqu'émise par des réalisateurs comme Billy Wilder, Sidney Pollack ou John Frankenheimer. De cette période, son meilleur rôle reste incontestablement celui de Fedora, de Billy Wilder, à qui on consacre actuellement une rétrospective à la Cinémathèque à Paris. Le personnage éponyme qu'elle incarne est une star manifestement inspirée de Greta Garbo. Et Marthe se montre tout à fait remarquable dans un registre diamétralement opposé à ses emplois habituels. Le tournage n'est pourtant pas de tout repos, puisque Billy Wilder la terrorise dès qu'elle fait un geste spontané ou propose une intonation personnelle avec ce fameux « Qui vous a autorisé à faire ça ?» Alors Al Pacino, son compagnon de l'époque, vient la consoler sur le plateau.
Et dans la foulée, Dominique, Marthe Keller du coup revient en Europe.
Elle tourne en Allemagne avec le réalisateur Klaus Maria Brandauer, en Italie le téléfilm de Mauro Bolognini, La Chartreuse de Parme, en Russie le superbe Les yeux noirs de Nikita Mikhalkov. Également passionnée de musique, Marthe Keller interprète pendant des années et sur toutes les scènes du monde des oratorios comme Jeanne d'Arc au Bussée de Honegger. Elle parvient même avec talent à mettre en scène de l'opéra, notamment un Don Giovanni au Metropolitan de New York.
Et aujourd'hui, Dominique, Marthe Keller est globe-trotteur.
Marthe passe sans cesse d'un pays à l'autre et il est difficile de la coincer. Elle tient cette bougeotte de son père allemand qui a quitté son pays, alors qu'il n'était pas juif, peu avant l'arrivée de Hitler au pouvoir. Sois prête à partir en permanence. Ton passeport, c'est plus important que l'argent. Elle a tout hérité de lui. Dès qu'il y a un problème, je me tire dans mon travail comme dans la vie privée. Mais Marthe, je t'en supplie, reste un peu en France.
Eh bien voici Marthe Keller qui nous parle mystère, acteur et sport.
Le mystère, c'est une chose que je trouve une des choses les plus importantes dans la vie. Parce que je trouve que c'est comme être à poil. Moi, je trouve que c'est tellement beau quand on ne voit pas vraiment le corps entier dans un film. Parce qu'on peut toujours rêver une fois qu'on a tout vu. On sait maintenant comment c'est fait. On a moins le rêve. Même les acteurs, j'ai vu certains acteurs de tout donner dans des rôles. Ben, je trouve que c'est pas bien. C'est comme dans le sport. Si vous voyez quelqu'un qui va jusqu'au bout, ben, il perd. Mais quand quelqu'un a toujours cette toute petite réserve, ça fait rêver. Je vois quelquefois des acteurs que quand je sors d'un film ou d'une pièce, je suis épuisée pour lui parce qu'il a tout donné et on ne demande rien. Et d'avoir toujours un tout petit peu retenu, c'est beau. C'est même, je crois, c'est une forme d'économie essentielle dans notre métier.
Marthe Keller, qu'on peut voir aussi au cinéma partout en France depuis mercredi dernier, puisqu'elle est à l'affiche de L'Ordre des médecins, le nouveau film de David Roux, avec notamment au casting Jérémy Régnier.
Oui, Marthe Keller accompagne beaucoup les jeunes metteurs en scène, et prochainement, on la verra aussi dans un film de Sandrine Dumas.
Eh bien, merci beaucoup Dominique Besnéard. À la semaine prochaine, voici maintenant l'histoire du dimanche soir. Il est né sous l'ère Meiji, le 17 novembre 1906. Soichiro Honda, légende du sport automobile, incarne à sa manière toute l'histoire du Japon au XXe siècle. Son patronyme, Honda, est devenu une enseigne planétaire qui résume parfaitement la transition de l'empire du soleil levant vers une ère industrielle et démocratique qui s'est développée après la Seconde Guerre mondiale dans l'archipel nippon. Ensuite, que peut-on dire d'autre sur ce monsieur Honda ? Eh bien, écoutons l'un de ses employés au micro de France Inter en 1970.
Je connais monsieur Soichiro Honda personnellement assez bien. Il est un homme très simple et très gai. Il aime beaucoup d'astuces, faire d'astuces, parler beaucoup de femmes, etc., etc. Il fait ce qu'il pense qu'il faut faire tout de suite. Et personnellement, il est aimé par des gens, par des employés Honda. Pas tout à fait respecté, mais il est aimé. Par exemple, parmi nous, on l'appelle Papa Honda, par exemple. Alors, ça indique peut-être déjà qu'il y a quelque familiarité humaine entre M. Honda lui-même et les employés.
Yves de Risbourg, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'auteur d'une biographie de Soichiro Honda intitulée Monsieur Honda, que vous avez rencontré à plusieurs reprises, d'ailleurs pour des entretiens avant sa mort en 1991. En quelques mots, pour commencer, Yves, comment vous pourriez résumer la personnalité de celui qui s'appelait Monsieur Honda et que ses employés surnommaient Papa, donc?
Je crois, comme l'a dit cet employé japonais, qui parle très bien français d'ailleurs,
oui,
qui l'a connu, c'était quelqu'un de très jovial, ce qui pour un japonais au départ est déjà assez étonnant. On le remarquait tout de suite dans le groupe. D'ailleurs, même lorsqu'il était étudiant, tous les étudiants venaient à l'époque, on était dans les années 1920, habillés en tenue traditionnelle japonaise. Lui, il arrivait en costume, cravate, à l'européenne. Et il était effectivement quelqu'un qui aimait faire la fête. Et il l'a fait jusqu'à la fin de sa vie, puisque les dernières fois où je l'ai rencontré, la dernière fois où on s'est quitté, il était à peu près 6 heures du matin à Tokyo et on sortait d'un karaoké. C'est pour vous donner l'idée du personnage.
Un très bon vivant.
Oui.
Alain Prost, bonsoir.
Bonsoir.
Je n'ose à peine vous présenter. Vous êtes un des plus grands champions français. Vous êtes 4 fois champion du monde de Formule 1. Mmh. Voilà, ce n'est pas rien. Vous appartenez à la légende du sport français. Un des titres, c'est 1989. Vous étiez sur une voiture McLaren avec un moteur Honda. Mmh. Quel souvenir vous avez de ce monsieur Honda ? Qu'est-ce que vous pourriez dire de ce monsieur Honda, Alain Prost ?
J'en ai peu, mais ils sont intenses, hein, parce que c'est vrai que bon, c'est l'époque où il était plus, bien entendu, opérationnel, mais il était, Monsieur Honda, ça restait quand même la légende. Et j'ai vécu le karaoké aussi, hein. J'ai dû chanter La vie en rose. Je peux vous garantir qu'avec une bouteille de whisky, il fallait que je boive, sinon j'aurais dû sortir, hein.
Il fallait.
Oui. Non, c'est quelqu'un de, je l'ai connu sur la piste à Suzuka, justement avec Ayrton Senna en 88 ou 89, je me rappelle plus très bien. Moi, ce que je retiens de lui, et c'est ce qu'il montrait, c'était regarder des phrases typiques qu'il a pu dire, c'est-à-dire sans rêve, on aboutit à rien. Ou bien vous ne pouvez pas faire des choses sans passion et sans émotion. Et ça, c'est des choses qui me sont restées durant toute ma vie. Et pour moi, c'était un peu un exemple. Et puis voilà, ça correspond à une période où il était, enfin lui et comme d'autres, capable de faire plein de métiers différents. Il a fait de l'alcool, il a fait des machines, enfin des tondeuses. Et à Waco,
très polyvalent, en effet.
Et à Waco, d'ailleurs, si vous allez à Waco, au centre, je ne sais pas comment c'est maintenant, vous savez, on parle d'il y a 30 ans, le centre d'essai, on faisait aussi bien la Formule 1 que les tondeuses à gazon, la moto, tous les gens étaient habillés en blouse blanche.
Lui aussi.
Lui aussi, voilà. Moi, je l'ai vu, il était en blouse blanche, alors qu'il n'était pas encore une fois opérationnel. Et c'est un exemple. Alors, on a connu ça peut-être après-guerre, nous, en France, quand il y avait 150 constructeurs automobiles français. On l'oublie, mais dans les années 1900, eh bien, où on était capable, il fallait inventer, trouver, passer du cheval au cheval vapeur. Et voilà, Monsieur Honda représente un petit peu ces pionniers de l'industrie automobile qui est devenu un peu plus compliqué aujourd'hui quand même.
Yves de Risbourg, on va revenir un tout petit peu au début. Et donc, en 1906, Monsieur Honda, à 300 km de Tokyo, dans un petit village. À quoi ressemble le monde dans lequel il a grandi? C'est l'ère Meiji, son père est forgeron. Ça ressemble à quoi le monde dans lequel vit le jeune Honda?
Ça ressemble à l'Europe d'il y a de 50 ans avant, puisque le Japon, c'était encore les maisons en papier. C'était véritablement l'imagerie qu'on peut avoir du Japon du siècle précédent, des samouraïs, qui n'avaient quasiment pas évolué.
Un Japon ancestral.
Un Japon très ancestral, puisqu'il a vu, d'ailleurs, dans son petit village, pas loin de Kyomyo, les premiers poteaux électriques s'installer. C'est-à-dire là, la jusqu'à l'électricité allait arriver. Et lui, il l'avait déjà 10 ans. Et puis surtout, il a été complètement transporté par deux événements dans sa vie, qui a été la première fois un aviateur français qui est venu faire une démonstration sur le petit aérodrome voisin. Et là, il a la magie de l'aviation. D'ailleurs, il s'était fait embarquer par le pilote. Et puis ensuite, il a vu une voiture passer. Et il s'est dit, c'est formidable, ça va faciliter la vie. Parce que...
Une Ford T, paraît-il.
Voilà.
Il a vu une Ford T dans son village.
Voilà.
Et il s'est dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je veux faire ce type d'engin.
Il a couru derrière, le temps qu'il a pu. Et il n'était pas très bon à l'école. Hein. Ça ne se passait pas très bien, il était assez turbulent, comme il l'a été toute sa vie d'ailleurs. Et puis, il a quitté l'école pour
rentrer... À 15 ans, c'est ça,
à 15 ans, absolument, pour aller à Tokyo. Mmh. Et son père l'a confié au directeur de Hartchokai, qui était une concession automobile japonaise, mais qui vendait évidemment des véhicules qui venaient du monde entier. Et puis ensuite, il s'est dit, bon, tout ça c'est très bien, mais on peut faire encore mieux. Et il n'a non pas monté tout de suite une industrie automobile, pas du tout, mais il a dit, on peut vraiment donner à ces moteurs plus d'énergie, d'une part, et puis aussi de moins polluer. Et puis, il a monté donc une entreprise pour justement fabriquer des pistons, puisque près de chez lui, à Mamatsu, il y avait une usine Mitsubishi qui fabriquait
des segments de pistons.
Des segments de pistons, ouais. Absolument. Et là, il s'est rendu compte, il avait un petit peu plus de 20 ans, que ses connaissances n'étaient pas suffisantes. Il est allé voir le directeur d'université. Donc voilà, je sais que je n'ai plus l'âge, mais je voudrais continuer mes études. Et pourtant, il avait un livret scolaire qui était pas formidable.
Il a subi un premier échec.
Absolument.
Et quand il a eu le premier échec, avec ses segments de pistons qu'il n'a pas pu vendre, il voulait vendre à Toyota, eh bien, il est retourné à l'école.
Voilà. Et ça a tellement bien fonctionné.
Il a refait, et ça a marché, il a eu du succès. Et après, il a d'ailleurs revendu à Toyota, je crois.
Qui a pris 40% des parts, et ensuite, qui a entièrement racheté. Et puis, est arrivée la guerre, et là, il a déposé un brevet d'hélice d'avion tout à fait incroyable, qui a été utilisé par Mitsubishi, et il a rencontré là un ingénieur qui s'appelle Kawashima, qui a monté la société avec lui, et un autre ingénieur qui, lui, a fait les moteurs des fameux avions Zéro. Alors ça a été une partie dont on n'a pas trop parlé, parce que investir le marché américain dans les années 60 en disant « c'est moi qui ai fait des avions, des kamikazes », c'était quand même pas formidable.
Et oui.
Mais il a contribué effectivement à développer la puissance de ces moteurs avec entre autres ces fameux segments qui après sont devenus, tant dans le monde automobile que dans le monde aéronautique, très performants.
Alain Prost, il est donc devenu un génie de la mécanique, ce monsieur Honda. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, qu'est-ce que vous, le pilote de Formule 1, vous pouvez dire de ce génie mécanique quand on a conduit une McLaren Honda? Qu'est-ce que ça veut dire un génie mécanique? Ça veut dire qu'il avait une vision du moteur comme personne d'autre? Ça veut dire quoi un génie mécanique, Alain Prost?
Le génie, c'est justement son génie en tout cas, et son côté visionnaire, parce que malgré tout, quand il a eu un peu de succès, il a fait tout de suite une entreprise, une usine en Europe, une autre aux États-Unis. Il faut savoir quand même, je ne me rappelle plus exactement les années, mais on a commencé à parler d'émissions de CO2. C'est là d'ailleurs que la première Honda Civic, faite par Monsieur Honda, est arrivée comme moteur à refroidissement à eau et non pas à air.
Absolument.
Et d'ailleurs contre son avis d'une certaine manière.
Un de ses plus gros échecs, ça a été qu'il a voulu, avec la Honda 1300, imposer une voiture à moteur à refroidissement par air. Cette voiture n'a pas fonctionné. Et l'autre plus gros échec, c'est qu'il a fait aussi une voiture de compétition avec cette technologie. Et malheureusement, ça a été l'accident à Rouen de Georges Lesser. Et d'ailleurs, ils ont arrêté la compétition, la Formule 1, à ce moment-là. Et si je me suis trompé, ça a coûté la vie à un pilote, c'est une catastrophe, etc. Mais par contre, ce que disait Alain à l'instant, c'est qu'effectivement, en 72, ça a été la sortie de la Civic, qui a été un succès mondial, qui existe toujours.
Honda Civic, voilà. Bien sûr. Oui.
Et il avait surtout inventé, suite à une loi qui avait été votée dans l'État de Californie, vous savez, toujours très en avance sur la pollution, et il avait été dit que les véhicules qui, en 1973, pollueraient autant, etc., avec tel niveau de CO2, etc., ne pourrait être vendu en Californie, puis après aux États-Unis si les autres États avaient... Bon, ce qui fait que lui, il avait trouvé. Alors que tous les gros industriels du monde ne trouvaient pas la solution, lui, effectivement, il a trouvé la solution. Et il a même vendu la licence à Ford, puis ensuite à d'autres constructeurs, donc Chrysler et Nissan, je crois, si je me rappelle bien. Et du coup, la loi antitrust américaine a cassé cette loi. Sinon, on aurait vu aux États-Unis que des Ford, des Honda et des Chrysler.
Yves de Risbourg, je ferai 2 secondes sur la Seconde Guerre mondiale. Donc, il a participé d'une certaine manière à l'effort de guerre japonais. Il y a une chose qui m'intéresse, c'est qu'à la fin de la guerre, il décide de disparaître, entre guillemets. Il va aller dans les campagnes japonaises pendant un an, marcher avec sa flûte. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là, Monsieur Honda? Qu'est-ce que c'est que cette espèce de pèlerinage dans la campagne japonaise?
Alors, il a bien vu que le Japon avait été dévasté, c'était une catastrophe, et lui, c'est toujours, il faut apporter à l'homme quelque chose pour lui faciliter la vie, etc. Il s'est dit, je vais partir, et vous savez que le Japon, c'est un pays qui est très vallonné, ça monte, ça descend partout, et il s'est rendu compte qu'après-guerre, il y avait de grosses difficultés pour aller se ravitailler, même d'un village à l'autre, pour aller chercher les œufs qu'on n'avait pas, les poulets qu'on n'avait pas, les porcs qu'on n'avait pas, etc. Et il s'est dit, il faut absolument, en vélo, c'était impossible de monter ces côtes, etc. Et il s'est dit, il faut que je trouve une solution pour faire un vélo motorisé. Et il se trouve que, comme le Japon a été démilitarisé après la guerre, lui est allé au rebut et il a racheté tous les groupes électrogènes qui servaient sur les milliers d'îles du Japon à alimenter les radios des militaires. Donc il a acheté par lot ces groupes électrogènes, plusieurs milliers, il a acheté ça 3 francs 6 sous à l'époque, et il a racheté une usine de vélos qui était en faillite parce que effectivement les vélos ne servaient pas à grand-chose, sauf qu'il a mis ses moteurs sur les vélos. Et il a inventé le cyclomoteur japonais.
Voilà. Un coup de génie, encore une fois.
Oui. C'est un sens pratique incroyable.
Après la légende, je ne sais pas si c'est, il est allé à l'île de Man aussi, tout de suite après.
Oui.
Il a vu qu'il y avait déjà des courses et il dit, il n'y a rien de mieux que la course automobile pour faire connaître mes produits. Et c'est de là qu'est venu vraiment les...
Et la course moto, bien sûr.
La course moto.
Il courait chez lui, bien sûr. Ouais. Il avait monté une équipe qui courait dans les trophées japonais, etc. Mmh. Ça se passait plus ou moins bien. Et il s'est dit, véritablement, il y a, si je veux attaquer, parce qu'il avait toujours eu une vision mondiale.
Voilà.
Et il avait d'ailleurs un héros qui était Napoléon. Parce que Napoléon, pour lui, c'était le samouraï européen. Il vivait aussi sur une île, la Corse, comme il vivait sur une île, le Japon. C'était son modèle. Et il le trouvait très beau. Il avait des photos de Napoléon chez lui, des bus de Napoléon. Et lorsque il est allé en Angleterre pour aller vraiment, à l'époque c'était tout comme pour la Formule 1, c'était l'endroit où les choses se passaient, les constructeurs anglais, Norton, Triumph, BSA, etc. Il s'est dit, je vais essayer déjà de trouver les accessoires qui font que, parce que lui était quand même très moteur, les accessoires, et on va essayer de faire des motos qui fonctionnent. Mais ça a tellement bien fonctionné qu'il s'est dit, on va attaquer le championnat mondial, et c'est quand même le seul constructeur au monde qui a gagné dans toutes les catégories, puisqu'à l'époque, on court en 50.
Moto et Formule 1.
Oui, les deux, enfin, toutes. 50, 125, 250, 350, 500. Et la Fédération Internationale a même changé sa réglementation, parce que M. Honda arrivait sur les circuits, avait des 125 5 cylindres, avec un pilote italien formidable qui s'appelait Taveri, des motos multicylindres qui arrivaient avec quasiment un tour d'avance à l'issue d'un Grand Prix. Donc, il a fallu changer la réglementation et la limiter à 4 cylindres pour les 500 et à 2 cylindres pour les plus petites cylindrées.
Alain Prost, quand vous avez débuté votre carrière de pilote, c'est des années 70, ça représentait quoi à l'époque Honda pour vous? C'était une marque japonaise lointaine, entre guillemets, ou est-ce qu'elle était déjà très intégrée dans votre vie de pilote? C'était quoi pour vous Honda dans les années 70?
Alors déjà, il y a quand même une histoire, hein, puisque il y avait quand même des passages en Formule 1. Honda, comme beaucoup d'autres constructeurs, hein, sont venus, sont partis, sont revenus. Donc ils sont revenus à l'époque chez Lotus et Williams avant McLaren. Nous, on est allé avec Ron Dennis 2 ans avant la signature. On allait négocier les contrats au Japon ensemble. Alors vous savez, les négociations au Japon, c'était dans des hôtels à 3h du matin, 3-4h du matin, dans les chambres d'hôtel où tout le monde fumait. C'était une horreur. J'ai des souvenirs absolument incroyables de cette période. Mais voilà, bon, ça fait partie de mon histoire. Je peux en raconter, mais...
Allez-y.
Mais je veux dire, Honda, ça représentait déjà la puissance à l'époque. C'était le premier constructeur, enfin généraliste en dehors de Renault, qui était dans les années 80 aussi, mais qui a mis beaucoup de moyens. Vraiment, il y avait beaucoup de moyens. Une complexité incroyable, parce que d'être au Japon et de faire de la Formule 1 avec des ingénieurs incroyables, une lutte de génération. Hein. Déjà, nous, on l'a connu, moi j'ai connu ça, et j'en ai souffert, hein, parce que il y avait vraiment clairement la nouvelle génération qui était pour Ayrton Senna, l'ancienne génération un peu différente. Après, bon, voilà, moi, j'ai été champion du monde avec eux. Des relations pas toujours simples, mais ça reste un épisode de ma vie incroyable. En tout cas, si vous me posez la question sur Honda et la philosophie qui a été donnée par Soichiro Honda, c'est on s'arrête jamais, on doit progresser, on continue, il faut rêver, il faut pas se contenter de ce que l'on a, même si aujourd'hui, ils n'ont pas un succès total, donc, mais peu importe.
On va continuer à parler de ce monsieur Honda juste après le disque, car pour l'instant c'est l'heure de l'orchestre sur Inter, emmené ce soir par Balthazar, un groupe belge sur le retour. Ils chantent en anglais, ils sont originaires de Bruxelles, on les aime beaucoup. Le titre joué aujourd'hui, Entertainment, ainsi soit-il.
Baby, if you want it, no one's gonna let you know. Right. bad when I thought I had a chance. And tonight I was too slow, another word lost. Can I ever win? When it's just another one of those tricks you use to turn me in. Change is what I do. Maybe it changes what I am. Right when I'm sure I know what I think of you, it changes back again. Nothing but love, nothing but sin. Entertainment's what I'm gonna need to make you mine again.
Le Japon a perdu un autre empereur aujourd'hui, celui de la moto et de la Formule 1. Soichiro Honda, symbole de la reconstruction économique et de la réussite industrielle du Japon de l'après-guerre, est mort aujourd'hui à l'âge de 84 ans.
Philippe Collin.
C'est au lendemain de la défaite nippone que lui vient l'idée d'équiper les millions de bicyclettes de ses compatriotes de petits moteurs récupérés dans les stocks militaires. C'est le début des motos Honda, firme qu'il a créée en 1946 à l'âge de 40 ans.
Sur France Inter.
C'est plus précisément en 1948 que Soichiro Honda, icône japonaise du XXe siècle et légende du sport automobile, a créé sa propre société. Une enseigne mécanique qui a offert aux amateurs de Formule 1 un duel unique dans l'histoire de ce sport. Oui, à la fin des années 80, dans la même équipe, Honda avait réuni deux des plus grands pilotes de l'histoire du sport automobile, Ayrton Senna et Alain Prost, bien sûr.
Un duel jusqu'à se toucher et s'accrocher. À ce moment-là, 8 tours avant la fin du Grand Prix du Japon, c'est un véritable vent de folie qui souffle sur le circuit de Suzuka. Un incroyable mano à mano entre Alain Prost et Ayrton Senna vient de s'achever. Mais en fait, il a démarré dès le départ. Prost, qui n'est pas en pole position, prend un départ canon et coiffe son coéquipier brésilien. Prost en tête, Senna collé à ses basques. On peut presque se douter que cela ne peut pas se terminer comme ça. Et à 8 tours de la fin, effectivement, Senna tente le tout pour le tout dans une chicane. C'est l'accrochage, l'abandon du Français et Senna qui repart pour terminer la course. Mais cette fameuse chicane, le Brésilien l'a coupée, ce qui est interdit. Les commissaires l'ont donc disqualifié. Prost pour la 3e fois champion du monde.
Quel souvenir, Alain Prost ? Quel souvenir vous avez-vous, le pilote et l'homme, de ce moment de partage de l'écurie McLaren-Honda entre Monsieur Honda, Ayrton Senna et Prost? Ce ne sont pas que des souvenirs tendus, il y a aussi de bons souvenirs, j'imagine, Alain.
Non, bien sûr qu'il y a, c'est des très bons souvenirs. Bon, si ce n'est que l'année 89 a été compliquée pour moi, là il y avait quand même un peu de tension. Monsieur Honda avait une passion pour Ayrton Senna, avec des ingénieurs. Vous voyez, moi j'avais des moteurs qui arrivaient, par exemple, quand on enlevait les moteurs, c'était marqué « Special for Ayrton ». Donc, quand vous voyez ça, psychologiquement, c'est pas facile, hein, oui, quand vous vous bagarrez. Voilà. Oui. Mais j'en garde un souvenir comme de toute ma période de la Formule 1, les bons et les mauvais moments.
Alain, moi, à la fin des années 80, j'étais adolescent et j'étais fasciné, comme beaucoup de Français et beaucoup d'amateurs mondiaux de la Formule 1, par votre duo et votre duel, Senna et vous-même. Vous êtes très romanesque, ce duel, à la fois, vous êtes très différent et très complémentaire. Aujourd'hui, Senna est mort en piste, on le sait, en 94. Je me posais une question, en sachant que vous allez venir aujourd'hui. Est-ce que vous y pensez de temps en temps ou souvent à Ayrton Senna?
Mais Vous savez, notre histoire, elle était magnifique parce qu'il y a eu un avant Senna dans la F1 qui me regardait, parce que lui, c'est lui qui me l'a expliqué,
bien sûr.
Comme le pilote à battre. Il faut qu'il trouve tous les moyens pour pouvoir me battre. Et puis après, une fois que j'ai arrêté de conduire, il y a eu une période absolument incroyable, malheureusement, jusqu'à sa mort, où il y a un rapprochement total, parce qu'il n'a plus tout à fait la même motivation, il a perdu un peu son objectif, son goal, et on devient ami au point qu'il me raconte des choses incroyables sur sa vie, etc. Et c'est plus du tout le même Ayrton Senna, il est plus omnubilé par la sécurité, il veut que je m'occupe de l'association des pilotes, il m'appelle... Voilà, 3-4 fois par semaine, demander des conseils dans sa nouvelle équipe. Et donc, j'ai compris, sans cette période-là, peut-être que je serais resté, non pas sur ma fin, mais j'en aurais quand même un peu voulu de certains épisodes. Alors que là, non, j'ai trouvé que c'était, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, un épisode de notre vie. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire dans le monde entier Prost sans dire Senna, vous ne pouvez pas dire Senna sans dire Prost, c'est incroyable. Vraiment.
Alain, c'est vous qui avez prononcé l'expression âge d'or. Mmh. C'est vrai, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça tient aux hommes que vous étiez, par exemple Prost et Senna, vous deux, vos caractères, vos manières romanesques aussi de s'affronter, ou est-ce que c'est le sport qui s'est un peu délité? C'est vrai qu'aujourd'hui, la Formule 1 est toujours présente, hein, mais elle est moins là, elle est moins racontée, elle est moins dite, elle est moins romanesque aussi. Qu'est-ce qui s'est passé, Alain?
Elle est différente, mais si on veut schématiser un petit peu, tout à l'heure on parlait de Monsieur Honda, on a toute cette période avec les constructeurs, c'est les artisans, alors bien sûr ça s'est concentré, les artisans qui sont en Formule 1, et on découvre. C'est-à-dire qu'on fait des choses, il y a peu de règlements. Il y a un moment où on se dit, ben voilà, c'est celui qui gagne, j'exagère à peine. On s'est retrouvé par exemple une année avec des moteurs V8, V10, V12 et turbo. Alors il y en a un qui s'était mieux sur un circuit, d'autres après bon on a régulé. Et sur le plan humain, ben c'est un peu pareil. C'est-à-dire que moi j'ai eu des frasques incroyables avec le pauvre président Balestre à l'époque. Je lui ai dit va jouer aux billes, hein, sur la grille de départ.
Et il m'a
une semaine après il m'a envoyé un paquet de billes parce que voilà. Et puis on n'avait pas peur de dire les choses. Et puis c'est devenu un peu policé sur le plan humain. C'est devenu contrôlé sur le plan technologie. Une entreprise à l'époque de Honda, c'était les ingénieurs, même si c'est associé heureusement à quelqu'un quand il a fait Honda, sinon il ne serait peut-être pas arrivé. Aujourd'hui, c'est plus des financiers. On est dans une société différente, c'est tout. Mais la Formule 1 reste magique quand même,
oui,
parce que c'est quand même toujours un laboratoire. C'est toujours, mais voilà, ça c'est un peu le système de l'entonnoir.
Yves de Risbourg, je rappelle que vous avez donc écrit une biographie consacrée à Monsieur Honda. Ce qu'on apprend entre autres dans votre récit, c'est que ce n'est pas entre guillemets qu'un constructeur de bagnole. C'est un grand passionné aussi de course automobile. Il en a fait un peu lui-même, je crois, ou de moto, je ne sais plus. Est-ce qu'il aurait adoré être un grand pilote comme Alain Prost, par exemple?
Alors, il aurait rêvé. D'ailleurs, il a construit sa propre voiture à 30 ans pour participer à une course au Japon avec un moteur d'avion. Un Curtiss, 12 cylindres dans l'étoile, enfin une voiture qui d'ailleurs est aujourd'hui au musée de Motegi, sur le circuit de Motegi, qui appartient tout comme Suzuka d'ailleurs à Honda. Mais ça s'est très très mal terminé. D'ailleurs, il en a eu des séquelles toute sa vie, puisqu'il avait une semi-paralysie faciale qui lui est restée jusqu'à la fin de sa vie. Et il a compris que c'était pas pour lui. Donc, pour la moto, bon, il avait aussi que les pilotes japonais, c'était pas toujours ça, et c'est pour ça qu'il s'est dit, si je veux vendre des motos, et dans le monde entier, puisque son objectif c'était le monde entier, il faut faire de la compétition, il faut se faire connaître par la compétition, et pour la voiture c'était pareil. Sauf qu'à l'époque, on vient dans les années 50, il a inventé plein de choses, c'est-à-dire que le premier scooter en plastique, il n'a pas été créé en Italie, non, c'est le Juno qui a été fabriqué en 1952 par Honda. Bon, après, il y avait des gros problèmes de refroidissement et tout, mais enfin, bon, il avait inventé quand même le scooter. Parce que, alors, tout le monde croit que c'est à Naples que ça se passe. Il a inventé plein de choses, avec parfois, effectivement, des choses qui allaient moins bien. Par contre, il a inventé en 58 un engin absolument incroyable, qui s'appelle le Cub, qui est donc aujourd'hui à 60 ans, et qui est vendu à plus de 100 millions d'exemplaires. C'est le deux roues le plus vendu dans le monde, à tel point que pendant la guerre du Vietnam, le nom de code de Saigon pour les Américains, c'était Honda City, parce qu'il y avait des Cubs partout. Le Cub, c'est la grande invention de Monsieur Honda, mais il avait un problème, c'est qu'aux États-Unis, la moto, c'était très mal vu. Les motards, c'était des blousons noirs, c'était des Hells Angels, et personne n'aurait osé aller chez un motociste acheter une moto, même un cub. Donc il s'est dit, là, il faut quand même qu'on fasse de la pub. Et il y a eu cette campagne extraordinaire qui a fait exploser la marque, c'était « You meet the nicest people on a Honda ». Et vous aviez une affiche, c'est l'agence Bête qui avait inventé cela à Los Angeles, et on voyait une mamie sur son cub jaune, avec derrière sa tarte aux fraises, on voyait un surfeur sur un cub bleu, etc. Car c'est la première fois qu'on faisait des motos en couleur. Et à l'époque, je peux vous dire que rouler, quand vous alliez à Daytona avec une moto japonaise, on vous la faisait flamber, il fallait pas laisser sur le parking. Aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, puisque les Honda, les Goldwyn, entre autres, sont fabriqués aux États-Unis, pour un Américain de 20 ans, Honda, c'est une marque américaine, plus que japonaise. C'est assez incroyable comment en une génération, il a réussi ce bouleversement. Et d'ailleurs, Honda a été la première marque étrangère à être exposée au fame américain, qui est le musée des constructeurs américains.
Yves, il a aussi une autre passion. Monsieur Honda, c'est la peinture. Il peignit lui-même, d'ailleurs. Oui. Et vous racontez une anecdote savoureuse sur Chagall et Monsieur Honda, une rencontre à Paris. Vous pouvez nous la raconter rapidement, qu'est-ce qui se passe entre Chagall et Honda?
Alors, en fait, il a rencontré Chagall complètement par hasard, et il ne savait absolument pas qu'il avait repeint le plafond de l'Opéra de Paris. Et alors, j'ai plus tout à fait l'anecdote en tête.
Alors, il vient avec des pinceaux. Voilà, des pinceaux, évidemment, japonais.
Absolument. En disant, je vais faire un cadeau formidable
à Chagall.
À Chagall. Et ça a été le début, je vais pas dire d'une amitié, parce que je sais pas s'ils se seront vus après, mais Monsieur Honda aimait tellement la peinture, d'ailleurs, il allait souvent peindre Fujitsan. Alors Fujitsan, en fait, c'est le nom qu'on donne au Mont Fuji. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il s'est réuni un petit peu avec son fils Hirotoshi, qui lui aussi fait de la peinture, parce qu'ils se sont un petit peu
fâchés.
Oui. Et Hirotoshi, donc on a profité pour monter une société qui s'appelle Mugen. Et Mugen veut dire « encore mieux ». C'est-à-dire qu'en fait, Mugen était pour Honda, ce que Alpine était pour Renault, ou ce que AMG est pour Mercedes, etc. C'est, on va faire mieux.
Je vais aller au bout de Chagall quand même, parce que, en fait, la tradition japonaise veut qu'on offre un cadeau et qu'on a un cadeau en échange.
Absolument.
Et Chagall n'attend pas d'offrir son cadeau parce qu'il est tellement passionné par les pinceaux qu'il se précipite dans son atelier pour les essayer. Et Honda a une remarque géniale, il dit « il m'a traité comme n'importe qui, c'est maître Chagall, je suis très heureux ». C'est quelque chose de très beau quand même de dire ça, mine de rien.
Il a toujours été très humble, tout en étant très facétieux, très très blagueur, etc. Il s'est jamais mis en avant. Moi, par exemple, pendant des années, puisque j'ai eu la chance de le connaître, j'avais 6 ans, hein, donc vraiment, je le voyais très régulièrement.
Ah, c'est votre père qui travaillait avec Honda, c'est
absolument
ça?
Absolument,
on
a vu arriver ce monsieur Honda en disant, voilà, je fais des motoculteurs, des tondeuses à gazon, des groupes électrogènes. On dit, mais c'est Galerie Lafayette du moteur, cet homme. Et pas encore les voitures, un peu les motos. Et il dit, voilà, est-ce que vous pouvez les importer en Europe et en France d'abord? Et c'est ainsi que en 64, mon père montait Honda France. Et après, donc, ça a été une longue histoire. Et je voulais absolument faire un film pour une émission qui s'appelait Automobile Classique que je présentais sur TF1 avec Hubert Auriol. Je voulais faire un 52 minutes sur lui. Et il voulait pas aller, non, moi, c'est pas important. Ce qui est important, c'est la philosophie de mon entreprise, c'est les gens qui fabriquent pour moi, c'est le réseau, etc. Et le jour où Enzo Ferrari est décédé, il se trouve que quelques semaines plus tard, je l'ai rencontré à la fédération où M. Balestre lui remettait sa coupe de champion du monde des constructeurs et Ayrton Senna des pilotes. Et je lui dis, vous savez, Enzo Ferrari est mort. Il dit, oui, c'est une catastrophe. Je lui dis, mais devant moi, j'ai le dernier constructeur automobile vivant. Alors, on fait ce film. Et puis, en fait, ce film, malheureusement, il est décédé pendant le tournage. Et c'est comme ça que j'en ai fait un livre.
Un très beau livre, d'ailleurs. Alain Prost, quand un grand champion prend sa retraite sportive, parfois, on parle de petite mort, vous voyez. Vous avez arrêté à peu près 25 ans, si je dis pas de bêtises, votre carrière professionnelle de coureur, j'entends.
Exactement, 93.
93, 25 ans. Est-ce que ça vous manque parfois le circuit, la compétition, le volant, l'adrénaline? Ça vous manque ou pas du tout alors?
Aujourd'hui, pas du tout. Moi, je suis comblé par rapport à ce que je fais. Je suis encore dans mon milieu. Quand j'ai arrêté en 93, j'ai eu, un mois compliqué.
Un mois seulement, c'est très peu quand même.
Oui, parce que je suis très actif. Donc, vous avez la chance, vous avez jamais connu ça dans votre vie. Moi, j'ai travaillé très jeune avec mon père, etc. Enfin, moi, à 14 ans, je préparais mon karting, etc. Donc, quand vous commencez à vous lever le matin à 10h et dire, bon, profitez un peu, faire la grasse matinée, aller jouer au golf, etc. Au bout d'un mois, vous dites, mais attendez, c'est ce que je veux montrer à mes enfants. Et puis, je veux pas continuer comme ça non plus longtemps. Donc, il n'y a pas de problème. Et puis,
mais ça vous manque pas le circuit, chicane?
Au point où, quand j'ai conduit récemment des Formule 1, je conduis régulièrement.
Ah, vous faites ça quand même?
Oui, mais je
est-ce que parfois on vous offre un circuit à vous tout seul et vous faites un peu d'essai?
Non, mais j'ai l'opportunité de le faire. Bon, j'ai conduit une Red Bull récemment, enfin une Renault, sur des circuits différents. J'ai conduit ma voiture de 85 qui m'a donné beaucoup plus de plaisir que les voitures modernes, mais c'est plus.
Vous avez reconduit la 85.
Oui, oui.
Et c'est quoi les émotions là à ce moment-là?
Ah, ben, c'était en Autriche, c'est une McLaren de 85, champion du monde, où il y avait un peu plus de 1100 chevaux.
J'avais
ma combinaison il y a 2 ans.
D'accord.
Ma combinaison, mon casque, ma tenue de l'époque, c'était mon baquet de l'époque, les pédales, les réglages, personne ne l'avait conduite. Et j'avais même, bon, bien sûr, en deux mécanos de l'époque, c'était intense comme émotion. Voilà. Encore une fois, on revient à l'émotion. Et vous montez dans la voiture, vous faites un demi-tour et vous retrouvez vos sensations comme si c'était hier. Voilà.
D'accord. Yves Darido, pour terminer cette interview, parce que le temps passe très vite, une seule image que vous garderiez de Monsieur Honda, suite à ce récit que vous lui avez consacré, qu'est-ce que vous voulez garder comme image aujourd'hui de Soichiro Honda, le fondateur de cette marque planétaire de sport mécanique et automobile?
Il y a beaucoup de moments, comme dit Alain.
Vous n'avez difficile. Pas le droit à un seul moment, une seule image.
Alors, il y a peut-être un moment, ça a été lorsque, contre toute attente, ce n'était pas du tout prévu. En fait, on avait un des rendez-vous, on l'avait fait à Aoyama, dans le Aoyama Center, qui est un peu l'équivalent du pub Renault sur les Champs-Élysées. Sauf que, au-dessus de l'exposition, il y a les bureaux de Honda. Et il y avait une voiture qui était présentée pour la première fois, qui s'appelait la Beat, B-E-A-T, qui était une microcar. C'est qu'au Japon, lorsqu'on n'a pas de place de parking, on n'a pas le droit d'acheter une voiture, sauf si elle fait moins de 3 mètres de long et 660 cm3 maximum.
Une microcar, donc.
Microcar.
Petite voiture.
Et il y avait cette nouvelle microcar qui sortait. Et il est rentré dans le magasin, je peux vous dire que les gens se sont figés. Parce que quand ce petit bonhomme est rentré, mais tout le monde, que ce soit les clients, les visiteurs, les hôtesses, etc., Honda-san, papa Honda, était là. Et lui, il était comme un gamin. Il s'est mis au volant de la voiture et tout. Ça me rappelle ma S800, etc. Et d'ailleurs, il n'écrivait pas en anglais, ne parlait pas anglais, ne parlait aucune langue. Il avait toujours son traducteur avec lui. Sur la S800 Honda, qui était là, la voiture, le petit coupé et cabriolet mythique, c'est la voiture de Spirou qui est sortie, le Honda qui est sur le côté de l'aile, sur l'aile, c'était comme ça qu'il signait. Il ne savait écrire que son nom dans notre écriture. Voilà, il était comme un enfant qui revenait 40 ans en arrière. C'était un
et il vous a dit formidable. Cette bite là, cette voiture là me maintient en jeunesse.
Absolument. Voilà. C'était pour lui la continuité, mais avec toujours cet esprit de l'époque.
En tout cas, merci à vous deux d'être venus ce soir pour nous raconter le destin de Soichiro Honda. Je précise que vous pouvez lire la biographie d'Yves de Risbourg intitulée Monsieur Honda. C'est disponible aux éditions Under Control. Merci.
C'est sur internet, sur le site monsieurhonda.com, puisqu'on vient de le rééditer spécialement. C'est une nouvelle version pour les 70 ans de Honda.
Parfait. Merci à vous deux. Passez une excellente fin de journée. Bonsoir. Salut. Ne quittez pas l'écoute, car voici maintenant le Give Me Five de Joy Raffin.
L'œil du tigre.
Rebonsoir Joy.
Rebonsoir Colin, rebonsoir à tous.
Alors, que trouve-t-on dans ce Give Me Five ce soir?
Eh bien, on commence avec un conseil.
Ah.
Allez au musée.
Un bon conseil.
Voilà. Ouais. Alors au musée Rodin, plus précisément, puisque s'y tient actuellement une exposition intitulée « Rodin, dessiné, découpé ». Et alors, si cette info a toute sa place, hein, ici, dans mon Give Me Five, et oui, c'est parce que dans ses dessins notamment, Auguste Rodin s'intéresse grandement à la danse et il sait retranscrire les mouvements du corps des danseuses comme personne. Alors, au printemps 2018, le musée Rodin avait déjà mis en lumière la rencontre de Rodin avec le monde de la danse, hein, dans une expo. La fascination de Rodin pour la danse était évoquée à travers ses rencontres avec plein de danseuses de l'époque. Donc, il y avait Isadora Duncan, Lloyd Fuller ou Anako, la danseuse japonaise dont le sculpteur était un grand admirateur. Rodin s'est vraiment toujours passionné pour la danse sous toutes ses formes, hein. Qu'il s'agisse de danse folklorique, de prestations de cabaret ou même des pratiques de la danse dans l'Antiquité, enfin, c'était un dingue de ça. Et à force de les observer, Rodin avait tout compris de la démarche et du mouvement de la danseuse. Alors écoutons à ce sujet justement Marie-Claude Pietragala.
La plupart des sculptures grecques étaient représentées souvent avec une demi-pointe, avec le poids du corps sur la jambe de devant, alors que là, c'est vraiment la marche, dans le sens où il a vraiment le poids du corps qui est au milieu, et enraciné dans le sol, et en même temps, il y a ce déséquilibre qui fait que tout reste possible, et c'est ça qui lui donne le mouvement. En fin de compte, souvent quand on pense à les sculptures, on voit quelque chose de figé, ce qui est absolument pas le cas chez Rodin, parce que on a toujours l'impression que les sculptures sont en train de danser.
Voilà, pourquoi? Bah parce que Rodin était un artiste amoureux de la danse, tout simplement. Alors si comme moi l'an dernier, hein, vous aviez raté l'expo Rodin et la danse, vous avez l'occasion de vous rattraper.
Oui, et donc si vous êtes de passage à Paris, allez donc au musée Rodin voir l'exposition Rodin dessiné découpé. Rodin et le corps sportif donc des danseurs et des danseuses. C'est donc jusqu'au 24 février. Quoi d'autre, Joy ?
Eh bien, le 16 février prochain, ce sera jour d'élection présidentielle au Nigeria. Alors, un événement toujours crucial pour un pays, mais plus encore pour le Nigeria, où le pays est en proie à des violences et à un climat de conflit complètement incessant. Et pour cause, le Nigeria accuse vraiment un fort taux de chômage chez les jeunes, et Boko Haram ne cesse d'en profiter pour les recruter dans ses rangs. Donc, face au désintérêt total des jeunes pour la politique, l'ONG TAP Initiative vient d'avoir une idée que moi je trouve très cool, organiser un match de foot entre les Super Eagles, c'est leur surnom, du Nigeria, vainqueur des Coupes d'Afrique des Nations 1994, et ceux de 2013. Donc on peut s'attendre à voir des joueurs tels que Samson Siasa, Taribo West, John Obi Mikel ou Joseph Yobo, enfin des joueurs qu'on adorait quoi. Donc cette rencontre entre deux générations de footballeurs nigérians aura lieu le 9 février prochain au Lagos National Stadium, et la particularité de ce match, c'est que le billet pour y assister, ce sera la carte d'électeur. Voilà. Donc éveil de la conscience politique et de la jeunesse et hommage aux gloires du football. Alors on verra si ça match. Mais en tout cas, on croise les doigts.
Et sinon, bah, c'est bientôt le Super Bowl aux États-Unis et ça y est, on sait enfin qui aura l'honneur de jouer à la mi-temps de l'événement sportif le plus regardé au monde.
Oui, alors on le sait depuis longtemps maintenant, c'est le 3 février 2019 à Atlanta qu'aura lieu le prochain Super Bowl, la finale du championnat de foot américain. Mais cette année, suite aux controverses entourant la Ligue américaine de foot américain, la NFL, avec notamment le soutien des artistes à Colin Kaepernick, vous savez, en procès avec la Ligue toujours sans club pour avoir affiché son désaccord avec la politique de Trump, hein, on en a beaucoup parlé, trouver des artistes acceptant de participer à cette grande fête qu'est le Super Bowl n'a pas été facile.
C'est sûr.
Par exemple, Cardi B et Rihanna ont décliné et la liste des refus est longue. Mais ça y est, on sait qui c'est, on sait qui accompagnera le groupe des Maroon 5 sur scène. Il s'agit des rappeurs Travis Scott et Big Boy. Voilà. Alors les mauvaises langues hein, diront que ça fait un peu second couteau.
Oui.
Mais entre ça et pas avoir de show, voilà.
Et alors du foot américain, on passe au soccer, hein, donc le football en Europe.
Oui, c'est ça. Mmh. Avec une belle initiative, le club de football professionnel néerlandais du PSV Eindhoven est le premier à avoir lancé la semaine dernière une section spéciale amputée. Voilà, tout simplement. Donc rappelons qu'il existe une Coupe du Monde hein, de foot des amputés, mais pas de championnat national ou de compétition type Ligue des Champions. Hein. Donc en allant dans ce sens, et avec cette section de joueurs handicapés, le PSV Eindhoven met toutes les chances de son côté pour briller en sélection nationale. Et c'est chouette, c'est tout le mal qu'on leur souhaite.
Et pour finir, Joy, ton conseil culturel de la semaine.
C'est un livre qui vient de paraître aux très jolies éditions Finitude, L'Appel de Fanny Wallendorf, le premier roman de celle que l'on connaît, enfin en tout cas moi je connais, c'est comme ça, pour avoir traduit Raymond Carver, ce qui n'est pas bon de déplaire. Mmh. Bon, bah alors, le pitch est simple, hein. L'appel, c'est l'histoire de l'invention du saut dorsal, soit la technique de saut en hauteur inventée par Dick Fosbury via la vie de son athlète. Alors précisons tout de suite que L'appel, ce n'est pas une biographie de Fosbury, c'est bien plus que ça, hein. C'est ça qui est génial. C'est un roman d'apprentissage dans lequel en fait un mouvement va déterminer la vie d'un gamin, puis celle d'un homme dans une Amérique qui, elle aussi, est en pleine mutation.
Voilà. Les années 60, évidemment.
C'est ça, voilà. Donc, c'est intéressant, c'est brillant, c'est émouvant. Sans jeu de mots, c'est renversant. Lisez ce livre. J'ai adoré, vraiment.
Oui, c'est sûr que pour... Oui, renversant pour Dick Fosbury. À lire de oui, toute ça. Urgence, donc, L'appel de Fanny Wallendorf, paru aux très belles éditions Finitude. Merci beaucoup, Joy, à la semaine prochaine.
Bye.
Et voilà, cette 21e émission de notre saison 4 a été coachée bien sûr par H2M, l'incontournable Henri Marc Mutel. Merci Marco, assisté ce soir à la technique de Guillaume Roux. Merci à lui, merci à toute l'équipe de L'Œil du Tigre, à Arnaud Jamin qui prépare cette émission avec moi. On se retrouve la semaine prochaine avec le destin d'un grand champion oublié, le Major Taylor, surnommé au début du 20e siècle le Nègre Volant. Il fut un immense champion cycliste afro-américain, un destin extraordinaire. D'ici là, passez une excellente soirée, une excellente semaine. On vous attend dimanche prochain dans L'Œil du Tigre à 18h sur Inter. Salut et fraternité.